Bonjour à toutes, bonjour à tous, Régis Fellu sur Radio Vague. On se retrouve aujourd'hui pour notre chronique d'histoire locale. On va compléter un récit qu'on avait commencé la semaine dernière avec Monsieur Fougeron, un récit sur la bande des chauffeurs d'orgères, un sujet que vous connaissez peut-être déjà. Je pense que vous avez été nombreux la semaine dernière à l'écouter. Bonjour Monsieur Fougeron.
Bonjour Monsieur Fellu.
Donc on va continuer sur ce récit que j'ai trouvé personnellement passionnant. C'est vraiment un sujet intéressant qui se passait il y a bien longtemps, au moment de la Révolution, un petit peu après la Révolution française, Monsieur Fougeron, c'est ça?
Oui, 1790. Oui, dans les années 97-98. Voilà.
On a parlé la semaine dernière de notre beau François, le chef de bande un petit peu de ces chauffeurs d'orgères. On est à quelle époque? Là, on est en 90-95.
Là, on est entre 95 et 98, voilà. Puisque la fin de l'histoire va se passer en 98. Voilà. On avait évoqué la façon dont la bande était organisée. On peut peut-être dire un mot de façon assez concrète sur la façon dont ils s'y prenaient. Donc, on a vu qu'il s'agissait de petits groupes plus ou moins formels qui se réunissaient à l'occasion des opérations qui étaient montées. Et le groupe est toujours commandé par un chef qui est soit le plus costaud, soit le plus malin, ou celui qui connaît bien les lieux et qui a indiqué le coup qui était à faire.
Ils avaient besoin d'un indique, en fait,
il fallait un local, bien sûr, savoir où aller si on ne voulait pas perdre son temps. Les complots se montent dans un gîte en exploitant les renseignements recueillis, et recueillis soit auprès des Francs, c'est-à-dire la façon dont c'était tous les individus non nomades, en fait, et qui collaboraient épisodiquement avec la bande, et surtout comme receleurs. Mais des indications aussi qui pouvaient être données par les employés du lieu attaqué, notamment les commis dans les fermes ou les bonnes, par des indiscrétions ou par la rumeur publique, ou par des visites préalables, notamment faites par des enfants ou des femmes qui rentraient dans les fermes pour demander si soit du pain, soit s'il n'y avait pas une lessive à faire, et qui en profitaient pour voir tout ce qu'ils pouvaient voir, et surtout se renseigner sur les effectifs de la ferme. Les femmes et les enfants sont donc mis à contribution, mais attention, malheur si les renseignements ne s'avèrent pas exacts. Le petit gars d'Étréchy n'aurait pas donné le nombre exact d'employés dans la ferme à attaquer. Eh bien, il a été tué et enterré dans les bois de l'Iferno, où on a retrouvé ensuite ses ossements. Tout ça parce qu'il s'était trompé sur le nombre de domestiques qu'il y avait dans la ferme.
On ne faisait pas de quartier à l'époque.
Alors, non, ça n'était pas des tendres. Donc, en général, ils étaient assez peu nombreux, moins d'une dizaine. Il n'y a que les grosses opérations, Gautret, Milloire ou Mongon, où là, ils étaient plus d'une vingtaine, 25, voire une trentaine. Ils font très attention quand même à essayer de ne pas être reconnus. Donc, ils changent de vêtements avant l'attaque. Ils se barbouillent le visage de suie ou se masquent avec un foulard. Et leurs victimes ont immédiatement la tête recouverte d'un linge ou d'un lit de plumes, comme le père Fousset à Milloire.
Oui, ils prenaient toutes les précautions pour ne pas être reconnus, parce que finalement, la maréchaussée devait être très, très bien organisée et faisait tout ce qu'il fallait pour reconnaître.
La maréchaussée faisait tout ce qu'elle pouvait. On verra que ça dépendait quand même beaucoup de l'implication personnelle des gendarmes qui étaient en poste. Et l'affectation du maréchal des logis Vasseur comme patron de la brigade de Janville certainement a été déterminante. Il arrivait du Perche où il avait eu affaire à quelques éléments de la bande qu'il avait réussi à attraper, Et quand il est arrivé à Jeanville, après l'attaque de Milloir, là, il s'est dit qu'il ne lâcherait pas le morceau. Et c'est certainement grâce à une excellente compréhension, un travail en très bonne intelligence entre le juge et le gendarme, que, on va le voir, la bande a pu être démantelée. Cette bande, elle a quand même un nombre de crimes, donc au moins 6 personnes qui ont été tuées. Et il y a eu 5 séances de chauffe. La chauffe, donc, c'était pas une partie de plaisir pour celui qui la subissait. Évidemment, la plus célèbre, c'est celle qui a été appliquée au citoyen Fousset à Milloir, le 4 janvier 1998. C'est la dernière, puisqu'après, la bande a commencé à être démantelée. Mais ça avait commencé à Saint-Léonard, le 9 avril 1996. Il y en avait une à Maison, le 20 avril, toujours en 1996. Et une au Luette, sur Béville-la-Fontaine, le 29 avril 1996. Et ces 3 séances de chauffe très, très rapprochées, évidemment, ça a absolument frappé les esprits et ça a affolé les gens.
Il faut le redire, hein, on a expliqué la semaine dernière que ce qu'on appelle des séances de chauffe, c'est, d'où le nom chauffeur d'orgère, on chauffait les pieds des gens qu'on attaquait. Hein.
Absolument. On enlevait les choses sous les sabots du propriétaire. Et puis, pour lui faire avouer où il cache son magot, eh bien, on lui pousse les pieds au milieu des braises. Voilà. Et évidemment, ça, et ça incite à parler.
Finalement, ce n'était pas systématique, parce que tout dépendait de la facilité ou non dont la personne allait avouer et donner les choses que les gens recherchaient. Quoi.
Bien sûr. L'une des attaques les plus sauvages a été celle de Gautret, qui a lieu dès 1795, le 16 octobre.
Gautret, donc à Saint-Denis-en-Val.
Gautret, c'est ça. Je ne sais plus si c'est Saint-Cyr ou Saint-Denis-en-Val. C'est peut-être Saint-Cyr-en-Val.
Un château qui se trouve à Saint-Cyr-en-Val.
Oui, voilà, et qui existe toujours. Oui. Je peux vous lire uniquement quelques lignes du récit de l'attaque. Vous verrez que c'est quand même assez sauvage. La nuit du vendredi 16 octobre 1795, à 10h30 du soir, environ 20 à 25 brigands arrivent, tous armés de fusils, pistolets et sabres. Après avoir attaché leurs chevaux à des châtaigniers le long d'une avenue, ils laissent un homme pour les garder et mettent des sentinelles à une allée qui fait face à la ferme du Raguet et le long des fossés. Les autres vont à la maison du fermier et enfoncent la porte. Ils donnent un coup de sabre dans le bas-ventre d'un fils du laboureur qu'ils jettent par terre. Après l'avoir lié et garrotté, ils lui marchent sur le ventre, de telle sorte qu'il est mort le lendemain. Après avoir pris tout le linge et les assignats qu'avait le maître, nommé Trépin, et ses enfants, ils emmènent Trépin en chemise sur le pont du château, le poignard sur la gorge. Ils menacent de le tuer et de le jeter dans les fossés s'il n'appelle pas le jardinier, en lui disant qu'il ouvre la porte parce qu'il avait, de la part de la loi et de la nation, quelque chose d'intéressant à lui dire. Le jardinier, ne pensant pas aux brigands, le rouvrit sans penser que cela lui était défendu la nuit. Aussitôt, il se jette sur lui, lui lie les pieds et les mains, ainsi qu'à sa femme et à sa fille aînée. Ils en font autant au charretier et à sa femme. Après avoir bien pillé les uns et les autres, ils viennent enfoncer la porte du château. Trouvant de la résistance à celle du devant, ils enfoncent celle de derrière qui donne sur la terrasse. Ensuite, ils montent l'escalier au bout duquel ils trouvent une porte verrouillée qu'ils enfoncent. Au bruit qu'ils font, je n'ai que le temps de mettre ma robe de chambre. Ça, c'est le propriétaire, M. Deloine, qui parle. Mettre ma robe de chambre et ma culotte. Je ne pensais pas avoir affaire à des brigands, mais plutôt à des gens qui, de par la loi, venaient faire des visites domiciliaires. Je me présente à eux. Le premier que j'aborde est un homme de 5 pieds 6 pouces, qui fait 1m78 à peu près, armé d'un fusil à deux coups et d'un sabre, à qui je demande ce qu'il veut. Il me répond « Les 25 000 livres que tu as ». 5 ou 6 hommes le suivent, armés de fusils, de sabres et de pistolets. En même temps, l'un d'eux jette une bourrée de bruyère dans la cheminée de ma chambre. Je leur dis qu'ils vont mettre le feu à la maison. Un d'eux me répondit que c'était pour me brûler. Conservant toujours mon sang-froid, je lui dis qu'il n'en serait pas plus avancé et qu'au contraire, j'allais leur déclarer tout ce que j'avais. Celui qui prenait le nom de commandant me dit « Viens donc me donner tout ce que tu as, tant en argent monnayé qu'en argenterie. » Comme je conduisais le commandant et quelques autres dans mon cabinet, plusieurs étaient entrés dans la chambre de la femme de chambre et de la cuisinière. Il leur lie les pieds et les mains, ainsi qu'à mon fils de Loane, et ils leur mettent sur la tête des serviettes afin qu'ils ne puissent les voir. Je ne vous lis pas la suite du récit, mais tout alors, est à l'avenant.
Est-ce qu'ils ont obtenu les 25 000 livres qu'ils réclamaient ?
Oui, alors ils venaient, ils s'étaient renseignés, ouais. Et ils venaient d'encaisser des rentes, et donc ils savaient.
D'accord. Donc là, comme vous expliquiez tout à l'heure, c'était une opération préparée, organisée. Dans un château dont on savait qu'il y avait des choses à voler.
Et on est frappé par la rapidité et la brutalité. C'est vraiment, ça ne laisse pas le temps à ceux qui sont attaqués de réagir. Une autre attaque très meurtrière a eu lieu à Montgon, un an plus tard, le 30 janvier 1996, où le fermier, sa femme et une servante sont assassinés. Le charretier a eu le cou coupé d'un coup de couteau. Ils ont voulu le tuer, mais il n'est pas mort. Et il y avait deux fillettes que les bandits ont voulu assassiner. Ils se sont concertés en se disant, et ces deux-là, on les tue ou pas? Et puis finalement, il y a un d'eux qui dit, non, non, on les laisse tranquilles. Et elles ont été épargnées. Mais enfin, tout ça a pour effet d'épouvanter la population. Deux ans plus tard, donc le 4 janvier 1998, c'est l'attaque de Milloire, à côté de Poupry, qui sera la dernière, grâce à l'implication du maréchal des logis Vasseur et de sa collaboration exemplaire avec le juge de paix d'Orgères, donc mon ancêtre, amant François Fougeron.
C'est une affaire très actuelle quand on parle de travail entre l'administration judiciaire et puis les policiers. Enfin,
tout à fait.
C'est dans cette condition-là qu'on arrive
à
trouver les bandits. Hein.
Là, on est donc sous le directoire et c'est une période où toute l'administration de la France se réorganise et se met en place. Les juges de paix, c'est une institution assez récente, elle date de 1795. Et comme Amand François était au préalable conseiller du roi au Châtelet à Orléans, donc juriste, le juge de paix est élu par les gens du canton et assez naturellement, eh bien, les gens ont voté pour lui et il s'est trouvé premier juge de paix d'Orgères. Et à ce titre, eh bien, c'est lui qui mène les premiers interrogatoires.
Voilà. Donc on a trois personnages, finalement, ce Vasseur de la maréchaussée, ce Armand François Fougeron qui était juge de paix, et puis ce beau François qui était le chef de la bande.
Voilà.
On se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler de cette affaire d'Orgères. À tout de suite.